MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bonjour. Bienvenue dans Bonjour chez vous. Bonjour Frank.
Bonjour Evelyne.
Bonjour Yanis.
Bonjour Evelyne. Bonjour Frank.
Bonjour Yanis. T'as une grosse semaine Yanis quand même. Hein?
Oui.
Plusieurs émissions.
Ça travaille dur.
Ça c'est bon.
Il a bien travaillé. Si vous êtes d'accord avec ça, dites amen à la maison. Et on ne vous entend pas, mais c'est pas grave. Comment combler le vide que l'on ressent? C'est notre thème du jour. Certains d'entre vous, vous ressentez peut-être vraiment un vide que vous essayez de combler de toutes sortes de façons. Il y a plusieurs manières de combler le vide que l'on ressent, mais il n'y a qu'une seule et bonne manière, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, messieurs, on va avoir une rubrique « C'est mon histoire ». Et comme je le disais hier en fin d'émission, c'est une série « C'est mon histoire » qui commence. Donc, 3 épisodes qui vont durer sur 3 semaines différentes. Et c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Des gens que j'ai aimé rencontrer, j'ai aimé leur cœur, j'ai aimé leur parcours. Et aujourd'hui, c'est Evans qui va nous raconter son parcours à lui. La semaine prochaine, vous découvrirez celui de son épouse Diona et finalement leur histoire de couple. Vraiment, Dieu a fait de grandes, grandes choses dans leur vie de manière individuelle, mais aussi dans leur couple. Et tout ça, vous aurez l'occasion de les découvrir au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais pour l'instant, nous allons commencer cette émission avec toi, Frank, dans notre pensée du jour.
Et on parle de chercher à combler un vide. Et j'ai été recherché, crois-le ou pas, Yveline, j'étais allé rechercher ce qu'un grand conseiller du 21e siècle avait à dire, quelqu'un qui est très connu, du nom de Google. Qu'est-ce que...
Je croyais qu'il allait dire ChatGPT.
Non, Google, il y a plus d'ancienneté. Et voici 5 points que je vous partage hein, par rapport au fait de combler un vide intérieur selon les conseils de Google. S'entraîner mentalement. Il faut mettre tous les jours une routine en place pour faire une introspection afin de trouver les solutions qui nous feront nous sentir mieux. Ça me semble quand même lourd et un pansement assez temporaire en tout cas. Chercher à s'accomplir. Ben, y en a beaucoup qui sont extrêmement accomplis, millionnaires, mais milliardaires, et ils ont quand même un vide intérieur. Après ça, ça dit accepter ses émotions. Je trouve que quand tu as un vide intérieur, souvent les émotions, c'est la tristesse, la peur, toutes sortes d'émotions négatives. J'ai pas envie qu'on accepte ces émotions. On est appelé à avoir des émotions qui sont beaucoup plus stables. Reprendre confiance en soi, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose, mais le monde et le système de ce monde est un peu fait pour quand même briser les gens et même souvent leur confiance qu'ils ont en eux, avec tout l'esprit de compétition qui est là, avec le stress, la pression, l'anxiété, toutes sortes de choses. Et le dernier conseil, s'entourer. Ben, ça, c'est bien. La parole nous l'enseigne aussi. Mais le problème souvent avec ça, c'est qui est-ce qui vous entoure? Parce qu'il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas et des personnes qui vont vouloir des fois être bien intentionnées avec des conseils, mais qui ne vont pas nous amener qu'à justement combler ce vide qui peut être dit. Et donc, beaucoup de personnes sont bien intentionnées, vraiment. Mais le problème, c'est qu'ils mettent de côté l'aspect spirituel de l'être humain. Souvent, ça va être juste tourné autour du corps physique et du mental. Alors que Dieu nous a fait en 3 dimensions. Et premièrement, chaque personne est un être spirituel. Et tant et aussi longtemps que les personnes ne vont pas saisir ça, il va y avoir ce sentiment de vide qui est là. Et c'est ce qui est extraordinaire, parce que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Il dit que si on a soif, il va nous donner à boire d'une eau qui va nous désaltérer pour toujours. Il dit même que si on a faim, même spirituellement, d'aller vers lui, il va nous donner à manger. Et ça, c'est extraordinaire. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est ce vide, il veut le remplir par son esprit. Et ça, quand une personne vit ce que la Bible et ce que Jésus a appelé lui-même la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'une personne débute une vie nouvelle spirituellement, il y a quelque chose. Que la personne ait rien par rapport à ce que le monde pourrait juger étant comme beaucoup, c'est-à-dire des gens qui ont peu financièrement, mais ils ont une joie dans leur cœur extraordinaire parce qu'ils savent, ils connaissent le Dieu qui a créé l'univers. Et ceux qui ont le plus, comme j'ai dit, et souvent ils ont un vide terrible, même s'ils ont beaucoup, du moment que tu rencontres Jésus et que tu saisis qu'il veut te remplir de son esprit, qu'il veut faire de toi son enfant, qu'il veut te transformer de l'intérieur, et qui veut t'amener qu'à être une nouvelle personne. Il le fait tellement gracieusement, tellement bien. Il nous transforme, c'est surnaturel. Ce vide est comblé. Et ça, il n'y a personne d'autre que Jésus qui peut le faire. Et c'est pour ça que je dis que toutes sortes de bonnes pensées, entre guillemets, qui pourraient être là. Mais tant qu'on ne saisit pas l'aspect spirituel de l'être humain, il va y avoir ce vide. Ça va peut-être être comblé pendant un mois, peut-être 6 mois, les chanceux peut-être 2 ans, mais tôt ou tard, ça va revenir parce que Dieu nous a fait pour être en communion avec lui. Amen. Et là, je vais arrêter parce que j'aurais trop parlé.
Merci, Frank. Oui, vraiment, c'est intéressant de voir ce que le monde recommande pour combler le vide. Et en fait, c'est des pansements. Mais le vide reste là. On camoufle juste.
C'est vrai. Et je ne contredis pas ce qu'il dit. Mais si tu me permets, Frank. Mm-hmm. Ce qui est essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Mais quand on voit la création de l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mm-hmm. Je vais lui faire un vis-à-vis. Adam, Ève. Et l'homme aussi a ce côté social. Mm. On a besoin d'un vis-à-vis. Oui. Je suis à 300% sur le fait que à partir du moment où Dieu rentre dans la vie d'une personne, cette personne n'est plus jamais seule. Mm-hmm. Mais le côté social, être entouré de sa femme, de son mari, de ses enfants, de sa famille, il est aussi important.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et pour revenir sur ce que tu disais, Frank, par rapport à ce vide, Blaise Pascal a dit, c'est une citation que je vous propose aujourd'hui, il a dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Il y a une image comme ça où on voit une personne comme avec une pièce de puzzle et cette pièce ne correspond que à celle de Jésus finalement. C'est Dieu en fait, ce vide qu'on cherche à combler. Comme tu dis, on peut être riche, on peut tout posséder, on peut tout avoir et pourtant se sentir vide à l'intérieur. Et j'aimerais continuer avec notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Ecclésiaste 3 au verset 11 qui dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a planté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Dieu a mis cette compréhension, cette connaissance de l'éternité en nous pour qu'on puisse comprendre qu'on a besoin de lui, en fait, pour cette éternité. Et en fait, c'est comme si la citation et ce verset, je trouve, s'accordent très bien ensemble, parce que lorsqu'on comble ce vide, on comble aussi cette peur, finalement, de la mort, cette peur de l'éternité où on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui vient après. L'inconnu, exactement, quand on rencontre ce face-à-face avec Dieu, eh bien, la peur de cette angoisse, en fait, de la mort et de l'éternité nous quitte par la même occasion.
Devient clair.
Exactement.
Devient clair à partir du moment où Dieu rentre dans une vie. La personne sait que, ben, finalement, Dieu est l'essence de sa vie. Oui. Et que le chemin avec Dieu, il est toujours clair, limpide, sûr. Et il nous promet plein de fois, mais il promet à ceux qui le connaissent de ne jamais les abandonner. Oui. Dieu n'ignore pas la solitude de l'homme. Il n'ignore pas que, à cause de cette solitude, l'homme est en quête de refuge. Et on les connaît, on ne va pas les citer. Oui. Ils sont pour beaucoup mauvais. Frank, on a cité quelques-uns, mais aujourd'hui, on le voit dans cette société où on prône un peu le coaching, le développement personnel, l'autosuggestion, qui finalement sont des placebos à la solitude.
Vraiment.
La vraie solitude est comblée par la présence de Dieu.
Amen. Amen.
C'est dur de le saisir tant que tu ne le vis pas. Mais des centaines de millions de personnes l'ont vécu. Et aujourd'hui, tu suis cette émission et tu ne sais pas, tu n'arrives pas à le comprendre intellectuellement. Et c'est normal parce que c'est spirituel. On ne peut pas tout saisir. Je ne peux pas exprimer. Mes mots sont trop faibles pour exprimer ce que j'ai vécu avec Dieu. Je crois qu'Yanis et Evelyne aussi, c'est une expérience qui est tellement personnelle, mais qui est tellement vraie. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est des bonnes choses, c'est-à-dire, de changer nos pensées. Ça, c'est excellent. De pouvoir bien s'entourer, c'est très bien. Mais tant et aussi longtemps qu'on va le faire sans Dieu, tôt ou tard, ce vide va se faire ressentir quand même. Et quand que je parlais tout à l'heure qu'il veut faire quelque chose en nous, c'est du moment qu'il vient habiter dans le cœur d'une personne, au plus profond de toi. Il commence à faire cette œuvre. Et je le dis comme ça, c'est parce que je n'ai pas d'autres mots, mais c'est surnaturel. Mm-hmm. Il opère un changement dans ta vie, une transformation. Alors qu'il est là, Dieu lui-même, il est en toi, les choses commencent à changer. Mm. Et ce vide n'est plus. Trop de gens l'ont expérimenté. Jésus est vivant, il agit encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on parle dans cette émission, ce vide qui doit être comblé.
Et si quelqu'un qui nous écoute, Frank, veut aujourd'hui combler ce vide et dire, ouais. Jésus, j'ai compris, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est tellement simple, tu vas vers lui. Il a dit, venez à moi. Et il est encore dans cette posture, dans cette position de t'accueillir, peu importe où tu habites, peu importe ce que tu as fait. Et ça, d'ailleurs, Yanis, tu en parles partout dans les prisons. Tu voyages sur la terre et tu vois des personnes qui ont pu faire des choses que je ne peux même pas imaginer, je crois, que tu as entendues. Mais peu importe ce qu'on a pu faire, Dieu dit, je suis là pour t'accueillir et t'accepter et commencer cette vie nouvelle avec toi. Et je ne veux pas que tu puisses croire, peu importe le mensonge, peu importe la pensée qui pourrait être là, je suis allé trop loin, j'ai trop fait, Dieu, il me repousse. J'ai déjà été vers quelqu'un de religieux, il m'a dit non, c'était trop tard pour toi, ne crois pas ça. Aujourd'hui, Dieu est là pour toi et tu cries à lui, c'est-à-dire que tu lui dis, je viens à toi, Dieu. Je crois que Jésus est allé sur cette croix à ma place. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas vivre ce que la Bible a dit, la réconciliation avec Dieu. Mm-hmm. C'est-à-dire que par tes péchés, tu as été déconnecté d'avec Dieu, séparé. Et Jésus est venu être l'intermédiaire, celui par lequel on reçoit le pardon de nos péchés. Et du moment que quelqu'un reçoit le pardon de ses péchés, c'est là que, justement, Jésus parle de la nouvelle naissance. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Et c'est là que les choses commencent à changer. Mm. Mais tout ce que tu as à faire, c'est demander pardon à Dieu, de crier à lui de tout ton cœur et il voit la sincérité. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique. Tu cries à lui et il va t'entendre et tu vas voir que les choses, d'une seconde, une fraction d'une seconde par la suite, les choses commencent déjà. Waouh, j'ai un sentiment de paix. Je n'ai jamais vécu ça. Une légèreté. Ma conscience est tranquillisée. Et peut-être que il va te demander d'aller demander pardon à des personnes parce que oui, tu as pu faire des choses, mais lui, il t'a pardonné. Mm. Et il va commencer à t'amener dans une vie nouvelle. Et c'est extraordinaire.
Amen. Amen. Et je vous propose qu'on puisse regarder le témoignage d'Evans, ouais. Comment lui a cherché à combler le vide à l'intérieur de lui et il a trouvé comment le faire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi un frère, Evans. Bonjour Evans, tu vas bien?
Bonjour, oui, je vais très bien.
Super, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire. Mais ce qui est spécial avec ton histoire, c'est qu'on aura le plaisir aussi de découvrir prochainement l'histoire de ton épouse et votre histoire de couple. Donc, vous avez de multiples témoignages tous les deux. Et mais aujourd'hui, on s'arrête sur toi parce que donc, c'est une histoire de transformation, de restauration vraiment que tu as vécu. Et pour faire connaissance avec toi, tu es née en Haïti et à l'âge de 2 ans, tu es venue au Québec et tu as grandi dans une famille chrétienne. Ton papa était pasteur et tu as grandi dans l'église, on peut dire. C'est bien ça?
Oui, absolument. Moi, depuis mon enfance, j'ai connu que l'église. Alors, on était dans une église où on allait, où il y avait un pasteur. L'époque, ça s'appelait l'église Dante. Puis après ça, un peu plus tard, mon pasteur a été ordonné par cette église-là.
Ton papa?
Mon père, mmh. Exactement. Alors, il est devenu pasteur.
D'accord.
Alors, c'est là que ça a commencé ma vie vraiment en tant qu'enfant de pasteur. J'avais peut-être l'âge de 13 ans, 14 ans à peu près.
D'accord.
L'âge que c'est vraiment que... où ce que j'ai grandi dans cet environnement-là. On avait un environnement très, très religieux. Mm. Alors, on parle de l'église le dimanche matin, dimanche soir. On avait le mardi soir la prière, le mercredi soir l'étude biblique, le vendredi soir la jeunesse, le samedi matin le jeûne et la prière. Et parfois, les vendredis soirs, on avait aussi les veilles de nuit.
Oui.
Puis on recommençait le dimanche.
Donc, tu étais à l'église à peu près tout ton temps libre, tu le passais à l'église finalement.
Oui, la plupart du temps,
oui. Wow. Et la relation avec ton papa, c'était comment? C'était un homme assez exigeant, je crois.
Oui, il était quand même très strict. C'était très strict. Puis, je ne sais pas si c'était la pression en tant que pasteur. Les enfants de pasteurs doivent vraiment montrer l'exemple en tant qu'enfant de pasteur. Alors, il y a d'autres parents qui regardent l'enfant du pasteur. Est-ce que, qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte? Alors, ça fait qu'il était peut-être un peu plus rigide qu'il aurait pu, il devrait être, en fait.
Je comprends.
Alors, c'est vraiment où ce que, c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'interdictions. Mais on parle des années 80 d'une famille haïtienne. Alors, il y a beaucoup de familles qui se ressemblent un peu. Alors, c'est le genre de famille où ce que, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas. Les femmes, les filles plutôt, ne portaient pas de pantalons, c'était des jupes. Pas le droit de boucle d'oreille. D'accord. C'était vraiment très, 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 si je peux utiliser le mot légaliste.
Oui, je comprends.
Dans comment que c'était.
Donc, beaucoup d'interdits, tu grandis dans ce contexte-là.
Exactement.
Et puis, tu vas grandir, tu vas faire tes premières rencontres et tu vas rencontrer une jeune femme que tu voudras présenter à tes parents.
Oui, absolument. À l'âge de 17 ans, moi, je suis musicien, guitariste.
Oui.
Alors, je me suis rendu dans un concert que je devais jouer. Puis là, j'ai rencontré cette fille-là assise à la billetterie. Pour moi, c'était « wow, fini, c'est fini, c'est la femme de ma vie. Je veux autre, je veux plus, je m'arrête, c'est compris, c'est fini, là, c'est ça. Oui. » Alors, puis là, vraiment, j'ai fini par avoir son numéro de téléphone. On commence à se parler. Puis là, j'ai décidé de présenter à mon père. À mes parents, mon père et ma mère. Mm-hmm. Puis, mon père, la réaction qu'il a eue, il n'a pas dit comme tout de suite quand je suis en train de présenter,
oui, oui.
Mais plutôt par après que je n'étais pas le niveau de cette fille-là.
Mm. Elle avait un calibre, en fait, trop élevé par rapport à toi. C'est comme si tu n'étais pas assez bien pour elle,
C'est exactement. Mm. C'est sûr, beaucoup, beaucoup plus tard, j'ai compris, probablement, il voulait parler de maturité.
Oui.
Mais la manière dont ça a été présenté, moi, je l'ai pris personnellement comme si je n'étais pas à la hauteur. Mm. Puis, je ne pouvais pas avoir une fille de ce calibre-là.
Mm. Et toi, ce que ça a fait dans ta vie, c'est que tu t'es dit, moi, il faut que j'aie une fille qui soit de haut niveau pour que je prouve à mon père que j'en suis digne un peu, c'est ça?
Depuis ce temps-là, c'est là que j'ai dit, OK. Ah oui? OK. Il n'y a pas de problème. Puis depuis ce temps-là, j'ai décidé, je dis non, moi, c'est du 10 sur 10, c'est sûr, à mes yeux, à moi, c'est du 10 sur 10 ou rien du tout.
Mm.
Puis, mais qu'est-ce qui parlait, c'était vraiment pour montrer que je suis capable d'avoir
oui.
une fille.
Toi, tu l'as mal compris, en
j'ai
fait.
J'ai mal compris.
Ça t'a challengé mal au point de te dire, je vais prouver à mon père que je suis digne d'une femme de haut niveau.
C'est exactement. Mm. Alors, même les femmes... mais c'est vraiment plus tard avec la maverne. Dans la vingtaine, là, vraiment, les femmes que je fréquentais, il fallait que ça soit universitaire, sexy, belle. Vraiment, toutes les qualités, si on veut, pour moi, à mes yeux, étaient importantes. Et puis, c'est dans cette direction-là que j'ai été.
C'est ça. Et
mais quand même, un an plus tard, ça n'a pas marché, la relation. Ça n'avait pas marché, la relation, un an plus tard. Alors, c'est là que... j'ai rencontré une autre fille que elle, on s'est même fiancés. Elle, ça a duré beaucoup plus longtemps.
Oui, ça a été une relation longue. Vous êtes allé, c'est ça, jusqu'aux fiançailles, comme tu le
oui.
dis. Mais tu as dû rompre les fiançailles. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça. Elle, ça a été une relation où ce que j'ai, où ce que je me suis vraiment engagé de tout cœur. Puis, on avait même prévu notre mariage, la date. On avait déjà la salle de réception et tout.
Elle était dans l'église, en plus. Elle était engagée dans l'église. Sa famille aussi. Vous étiez proche avec la famille également.
Plutôt moi.
Oui.
Sa famille n'était pas chrétienne.
D'accord.
Si on veut. Même...
Elle était chrétienne, c'est ça?
Elle était chrétienne. Oui. Sa grand-mère, puis elle.
D'accord.
Alors, moi, j'étais quand même tous les dimanches après l'église. On allait manger chez sa mère. Puis j'étais très proche à ce niveau-là. Puis il y a un de dimanche que après dîner, moi j'avais cette habitude-là, il fait une sieste. Puis j'ai été me coucher dans sa chambre. Puis elle est en bas avec ses sœurs et tout. Puis là j'ai trouvé son livre de
son journal intime.
Son journal intime. Alors dans son journal intime, c'est là que en lisant que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un incident qui s'est passé. Qu'elle m'avait trompé.
Ouf.
Puis, je n'ai jamais été traumatisé. Je tremblais. Je suis juste descendu les escaliers. J'ai pris l'auto. Je suis reparti chez moi.
Tu n'as rien dit à personne à ce moment-là?
Non, non. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, oh non, je ne me sens pas bien. Il faut que je m'en aille. Mm. Puis, par après, je l'ai confronté avec ça. Puis, finalement, ben, c'est sûr qu'elle m'a avoué tout ça. On a essayé quand même de rester en relation, mais je n'avais pas de soutien ou d'aide ou personne pour m'aider à passer à travers ça. Pour moi, c'était trop. Puis j'ai rompu les fiançailles. J'ai rompu le mariage, tout, la salle, tout ce qu'il y avait déjà préparé. J'ai arrêté tout ça, mais sans nécessairement donner la raison aux parents.
Tu voulais la préserver, finalement?
C'est ça, la préserver, puis... Mais ça m'avait tellement traumatisé, blessé, parce que c'était vraiment mon premier, pas mon premier amour, mais le premier vraiment vraie relation que j'ai eue. Puis pour moi, j'étais vraiment, ça a été un traumatisme.
Ça a été un traumatisme au point où tu as pris une décision, même après cette rupture. Tu as décidé de ne plus jamais vraiment aimer de femme, en fait. C'est ça, pour préserver ton cœur, finalement?
Exactement. Là, j'ai dit, c'est fini. C'est fini, là, parce que ça fait trop mal. C'est trop difficile à vivre. Alors, vaut mieux quand même que moi, je suis en amour. Je vais être capable de gérer. Il n'y a pas de souci, je peux fréquenter, je n'ai pas besoin d'être amoureux. Alors, c'est à partir de ce jour-là, j'ai verrouillé mon cœur. J'ai dit, et puis that's it. Ça n'arrivera plus, ce genre de situation-là. Puis si ça arrive, ben, ça ne me dérangera pas.
OK, mais c'est ça. C'était quand même une décision que tu avais prise.
Oui.
Et là, tu vas rencontrer finalement celle qui va devenir ton épouse. Elle rencontre vraiment les critères, une femme de qualité, une femme de haut calibre, on peut dire. Et comment ça va se passer dans le mariage?
C'est ça. Après avoir rompu, j'ai fréquenté des filles. Puis je m'étais un peu éloigné de Dieu à cette période-là. Alors, on fréquente, puis on vit sa vie. Je jouais dans des groupes de musique du monde. Puis, à un moment donné, je suis retourné à l'église. Parce qu'à un moment donné, moi, je dirais peut-être mon adolescence, j'avais toujours ce vide-là à l'intérieur qui faisait que la musique comblait un peu ce vide-là. Mais dès que je sortais de là, ma vie redevenait comme... vide
aussi
encore.
Vide, oui.
Aussi vide que c'était. Puis à un moment donné, ben, je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai dit, bon, il faut que je retourne à l'église. J'ai grandi là-dedans. Je sais que ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Alors, je suis retourné à l'église. Mais en retournant à l'église, j'étais plus retourné dans le même mode que j'étais avant. Alors, je suis retourné musicien, responsable de la louange. Puis c'est dans cette période-là que j'ai rencontré ma femme.
Oui.
Puis en rencontrant ma femme, là, je me suis dit non, je mets ma vie en règle, je ne vais plus vivre dans des histoires de femmes, fornication et tout, c'est fini. Alors, c'est là que j'ai pris la décision de dire, OK, je vais me marier. Puis, mais sans jamais avoir traité mon cœur ou guéri de mes traumatismes ou des choses que j'ai vécues dans mon adolescence.
C'est ça, c'est ça. Et donc, dans le mariage, toi, tu as ton cœur verrouillé. Tu as décidé que tu n'aimerais plus de femme. Et ben ta femme, finalement, tu ne ressens pas d'amour pour elle. Le mariage est compliqué, c'est ça? Sans rentrer dans les détails, parce que comme j'ai dit, on en reparlera dans un autre témoignage.
Oui, mon cœur était complètement verrouillé. Je fonctionnais, j'étais fonctionnel. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui avait le soi, qui rentrait dans le jeu, dans l'alcool ou dans ce genre de trucs-là. Mais... malheureusement, tu ne peux pas vivre comme ça à rien du tout. Là. C'est, à un moment donné, tu as besoin de quelque chose pour passer à travers ces moments difficiles-là. Puis, c'était l'impudicité, la pornographie, l'infidélité, tout ce genre de trucs-là prenaient place pour combler le vide que je vivais. Mais je croyais combler, mais qui était vraiment superficiel.
C'est ça.
Pour combler ce vide-là, parce que je ne pouvais pas aimer. Puis ça peut fonctionner avec une copine, parce qu'on n'est pas toujours ensemble. Mais mariage, où on est là toujours ensemble, tous les jours, tous les soirs, ça ne marchait plus. Je ne pouvais plus fonctionner comme je fonctionnais quand j'avais des copines où on peut faire deux, trois jours qu'on se voit pas.
C'est ça. Et à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, on va avoir un premier enfant. Tu voulais avoir un enfant. Et tu pensais que ça allait te combler, cet enfant également.
Absolument. C'est vraiment à la naissance de ma fille, je me suis dit, bon, je vais être père. C'est une autre émotion. Mes enfants, j'ai toujours eu cette sensibilité pour eux autres, cet amour pour eux autres. Mais ce n'était pas suffisant pour dire que ma vie familiale était comme un lieu d'oasis ou de bien-être. Ce n'était pas suffisant. Je pouvais aimer, mais je m'étais mis dans la tête que je pouvais aimer mes enfants sans nécessairement être en amour avec la mère des enfants,
voilà.
Qui était complètement absurde.
Tu dissociais les deux, finalement.
Tu dissociais les deux. Tu dissociais complètement les
mais
deux.
Oui. Et puis finalement, bah, cet enfant va naître, va pas te combler. Vous allez avoir même 4 enfants.
Oui.
Et ça ne va pas te combler non plus parce que ce vide est toujours là en toi.
C'est ça.
Et on en parlera, comme j'ai dit, dans une autre histoire, mais tu vas même quitter le foyer pour aller rejoindre une autre femme à un moment donné, pensant encore une fois que ça allait te combler, ça allait t'apporter le bonheur. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus.
Non, effectivement. Mmh. Et ce qui a fait que mon foyer... J'ai pas pu fonctionner dans ce foyer à cause de justement ce vide que je vivais au quotidien. Puis je le vivais vraiment au quotidien. Tous les jours que je riais, que je sois dans la joie, j'avais toujours ce vide-là.
Exactement.
Partout où j'étais, dans tous les moments. C'était vraiment quelque chose qui était chronique.
Exact, exact. Et on a plus beaucoup de temps. Mais comme j'ai dit, on aura l'occasion d'en reparler. Finalement, vous allez vous retrouver. Donc, il y aura une belle fin à tout ça. Mais toi, est-ce que tu peux nous partager rapidement ce moment, en fait, où ton cœur a été comblé, ce vide que tu avais en toi a été comblé, qui va te permettre de devenir l'homme que tu es aujourd'hui?
Mais j'ai dû m'abandonner à Dieu. J'ai dû vraiment... relâcher ce que j'avais verrouillé. Dieu l'a déverrouillé, puis j'ai décidé de mettre ma vulnérabilité puis d'apprendre à aimer. J'ai dû passer par un processus de pardon parce que pour pouvoir déverrouiller, il fallait que je pardonne, il fallait que je relâche. Puis aujourd'hui, mon père, je l'aime beaucoup, je l'adore. C'est que ça a été l'élément déclencheur, justement, du pardon et du mauvais déverrouillage de mon cœur.
C'est ça, Dieu t'a vraiment parlé par rapport à ça. Pardonner ton père et reconnaître, en fait, cette erreur que tu avais commise en verrouillant ton cœur.
Oui.
Et ça t'a transformé. Aujourd'hui, tu es un homme comblé, on peut
absolument,
le dire?
Absolument, oui.
Ce vide est comblé, vraiment?
Ce vide est comblé à 100%. Je n'ai plus ce vide-là. Je vis les meilleures années de ma vie.
Waouh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu besoin de vraiment t'abandonner à Dieu et vraiment redonner ta vie à Dieu pour vivre cette transformation?
Oui, absolument. J'ai passé par un processus justement pour ça, pour sortir de ce gouffre-là. Puis la seule manière d'y arriver, c'est vraiment de complètement s'abandonner, complètement lâcher prise. Puis de lâcher prise m'a emmené aujourd'hui à être complètement délivré de tout ce qui était impudicité, de tout ce genre de pulsions ou de sentiments-là. Je ne les ai plus du tout.
Excellent.
Dieu transforme. Dieu, lui, il crée comme si... à neuf. Souvent, on dit, on va chez le psychologue va nous patcher un peu, va nous aider. Mais Dieu, lui, il c'est comme s'il te refait complètement à neuf. On devient complètement nouveau.
Exactement, exactement. Comme je l'ai dit, dans la suite du témoignage, on va pouvoir voir vraiment comment Dieu a opéré ce processus en toi et comment, en fait, il a permis qu'avec ton épouse, vous alliez vous remarier après 10 ans de rupture. Donc, toute cette histoire-là, vous allez la découvrir dans une prochaine rubrique « C'est mon histoire ». Evans, merci beaucoup d'être venu nous partager ton témoignage.
C'est un plaisir.
Eh bien voilà le beau témoignage d'Evans qui a vraiment trouvé le moyen de combler son cœur, pensait que se marier réglerait le problème, avoir des enfants réglerait le problème, les femmes combleraient le vide, mais non, le seul moyen de combler le vide, c'est Jésus-Christ qui peut combler ce vide dans votre cœur et on vous encourage à vous donner entièrement à lui, pas juste un peu, donner toute votre vie au Seigneur Jésus. Yanis, merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette semaine, c'était génial de t'avoir, on a bien ri en tout cas. Hein.
Toujours un plaisir. Voilà.
T'as une punchline pour la fin?
T'as bien ri, Yanis?
J'ai bien ri.
T'as pas de coucher que fâché. Hein.
Non.
vous n'avez pas suivi les émissions, allez les regarder en replay sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, on vous souhaite un super bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.